Bonsoir. La Première ministre Judith Suminois a officiellement clôturé ses consultations pour la formation du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo le week-end dernier. Pendant notamment ses échanges avec les responsables des forces politiques et sociales, elle a insisté sur la réduction du train de vie des institutions vitales. Kamere, par exemple, au terme de l'audience lui accordée lundi par Judith Suminois, s'est dit satisfaire car il sera pas question selon lui d'un partage du pouvoir mais plutôt des responsabilités. Et au sujet de la taille du gouvernement, le leader de l'UNC a souhaité qu'elle tienne compte de l'immensité du pays pour plus de représentativité. Consulté lui aussi le même lundi par le Premier ministre, Bahati Lukwebo lui souhaite la réduction de la taille du gouvernement, tout comme le leader de l'AFDC a se dit d'accord avec Judith Suminois au sujet de la réduction du train de vie des institutions. Le Premier ministre sortant aussi soutient la réduction de la taille du gouvernement. Rappelons que sur le budget de 16 milliards de dollars voté par la République démocratique du Congo l'année dernière, le train de vie des institutions prend plus de 67%, dont 33,10% sont consacrés à l'administration. Quelle analyse faire de ces avis et informations au sujet du prochain gouvernement de la RDC? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous recevons Prince Epengue. Bonsoir.
Bonsoir.
Prince Epengue, vous êtes président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en sigle, membre de la plateforme Lamuka, plateforme de l'opposition dont vous êtes aussi porte-parole. Il y a aussi Gauche Kizito, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université catholique de Graben à Butembo dans la province du Nord Kivu. Gauche Kizito, bonsoir.
Bonsoir messieurs les journalistes et bonsoir à tous les auditeurs.
Nous devons en principe avoir un troisième intervenant que nous souhaitons pouvoir nous rejoindre dans les minutes qui vont s'écouler. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Vous l'avez sans doute suivi, les jours qui sont passés, la Première ministre Judith Suminois a officiellement clôturé ses consultations pour la formation du nouveau gouvernement de la RDC le week-end dernier, pendant notamment ses échanges avec les responsables des forces politiques et sociales. Elle a insisté sur la réduction du train de vie des institutions. Vital Kamerhe souhaite un gouvernement qui, selon lui, tient compte de l'immensité du pays pour plus de représentativité, alors que, par exemple, Bahati Lukwebo et Samalou Kondé sont clairement favorables à un gouvernement de taille réduite. Écoutons en plus ce que pense aussi le professeur Ngoma Binda à ce sujet. Il est au micro de Michel Kifinda.
La réduction du train de vie des institutions devrait prioritairement passer par la formation d'un gouvernement de moins de 30 ministres, estime le professeur Ngoma Binda.
Je pense que le tout premier acte que la première ministre doit prendre, c'est de réduire le nombre de ministres. Il n'est pas normal que nous ayons autant de postes de dépenses en termes de ministère, c'est trop budgétivore. Du temps de Mobutu, la moyenne des ministres qu'il avait, c'est dans les 28. Cela est tout à fait compréhensible. Pas 40.
Ce politologue et auteur de plusieurs livres en éthique politique propose à la première ministre de réduire de façon drastique les rémunérations et avantages attribués aux dirigeants politiques.
Lorsque les députés ont 33 000 dollars, ça blesse la moralité des gens, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim par manque de 1000 francs simplement pour s'acheter un petit pain. Les députés nationaux devraient avoir 3 300 dollars par mois. $3,300, un point, un trait.
Le professeur Ngoma Binda plaide également pour la suppression des institutions budgétivores qui n'apportent pas grand-chose au quotidien des Congolais.
Prince Epengue, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, membre de la plateforme Lavuka, vous êtes aussi porte-parole de cette plateforme de l'opposition. Alors, plusieurs personnalités, regroupements, camps politiques ont rencontré la première ministre de la RDC. Elle est en situation de préparer la mise en place du prochain gouvernement du pays. Est-ce qu'à ce stade, vous, comme président de parti politique, mais aussi comme membre d'une plateforme importante de l'opposition, est-ce que vous avez rencontré Madame la Première ministre?
Bon, je ne sais pas si c'est une blague ou une provocation. Mais la place du peuple n'est pas auprès de Madame Judith. Nous l'avions déjà dit. La place du peuple n'est.
Prince Benga, vous êtes avec nous?
Voilà. Madame Judith n'est pas la volonté des Congolais telle que ils avaient voulu exprimer. Donc, nous ne pouvions pas. Martin Fayulu.
Allô, Prince Epengue, est-ce que vous êtes avec nous?
Le véritable et l'unique président qui a été élu dans ce pays, de Madame Judith. Encore que celle-ci n'est qu'un visible que Félix a mis là pour faire sauter à cas d'un court-circuit. Parce qu'on sait que ce gouvernement, tel qu'on la voit, déjà vous voyez que le pays est bloqué. Depuis presque 4 mois, l'avidité, la pas de gain, chacun à l'Union sacrée veut avoir le meilleur poste possible pour
Prince Epengue, c'est pas aujourd'hui l'objet de notre débat de parler de la légitimité selon vous ou pas de Madame la Première ministre. La question a son sens dans l'orientation que même l'opposition fait partie d'un pays et peut-être si elle le souhaite, elle peut participer à la mise en place des idées pour en mettre en place un gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que la question vous a été posée. Est-ce que en tant qu'opposition, vous avez soit été invité ou soit vous avez souhaité à rencontrer pour une mise en place d'un gouvernement qui pourra justement correspondre aux attentes du peuple? Si c'est fait, vous nous le dites. Si c'est pas fait, vous nous le dites aussi. Non. Peut-être pourquoi? Pourquoi c'est pas fait? Parce que ensuite, on va revenir ensuite sur la problématique de la réduction du train de vie des institutions.
La question, parce que vous m'avez posé la question, si on était consulté, c'est comme ça que je vous ai expliqué que la coalition, la Mouka, mon partenaire de Congo, Martin Fayulu, ne pouvait pas passer auprès de Madame dans ce sens-là, parce que nous ne reconnaissons pas ces gouvernements ici des simulacres d'élections organisées pendant cette longue nuit en relation à la constitution de la loi électorale.
Merci. Là, venons-en maintenant à la problématique, s'il vous plaît, de la réduction du train de vie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre camp? La Mouka, c'est une terminologie qui est employée à chaque mise en place des institutions. Et est-ce que, de manière claire, vous pouvez expliquer à la population qui vous écoute, pour vous, la Mouka, pour votre parti, c'est quoi que vous entendez par réduction du train de vie des institutions? Elle consiste en quoi? Quels sont les termes de référence? Et la réduction du train de vie en question, ça sera sur quoi? Sur quelles institutions? Ça permettra de récupérer quel montant pour en faire quoi?
Écoutez, cette question, la coalition, la Mouka, la porte depuis 2015. Martin Fayulu avait même fait, à l'époque, formulé une proposition écrite pour dire que le train de vie des institutions est extrêmement élevé. Et donc, il faut les réduire.
Il est à combien aujourd'hui?
Le montant depuis de 70% de l'argent que l'État produit par an.
Et est-ce que
70%,
est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un rapport qui existe qui peut être consulté, qui établit le montant, ou bien c'est juste les estimations?
Mais bien sûr, l'indicateur vient même du gouvernement lui-même. Et M. Félix Tshilombo lui-même, dans sa démagogie, l'avait promis aux Congolais, mais ne l'a pas fait et ne le fera jamais. Et rappelez-vous que l'année passée, en 2023 déjà, Félix Tshisekedi promettait de réduire les trains de vie des institutions, estimant que l'essentiel de l'argent produit par les Congos, c'est les institutions qui les consomment. Et maintenant, en termes de salaires de gens, par exemple, des députés, des ministres, c'est le nombre du gouvernement. Je pense que, à mon sens, ce n'est pas tant le nombre des membres du gouvernement qui y importe. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est les rendements de ces ministres-là et aussi les projets dont ils ont porté. Et est-ce que les ministres donnent le meilleur d'eux-mêmes au fin de travailler, au fin de produire ce qu'on attend d'eux? C'est là le problème. Vous pouvez aussi avoir 5 ministres dans le gouvernement, mais qui passent la nuit, et plutôt qui dorment, ou qui arrivent au bureau en retard. Moi, je vais vous donner un exemple. Nous étions en 2012. Mon président du parti à l'époque, Kadir Kobopier, Jacques Chaloupa, paix à son âme, était emprisonné. Monsieur Kengo Wadodo, président du Sénat, m'avait donné rendez-vous dans son bureau à 9h30. J'étais arrivé à 9h.
Kengo, Prince Ekpenge,
avant 9h. Un exemple.
Oui, allez-y très rapidement. Nous devons rentrer dans le cœur du sujet.
On peut avoir 10 ministres, mais qui ne foutent absolument rien ou qui n'ont aucune idée, aucun projet. Ici, c'est trouver l'alchimie entre les nombres, l'efficacité, mais aussi les projets que les personnes portent.
Prince Epengue, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer d'être un peu concret dans la problématique que nous abordons? Il est question notamment de la réduction du train de vie des institutions et aussi d'estimer le profil de la taille que le gouvernement de la RDC doit avoir pour justement rentrer dans cette philosophie de réduire le train de vie et d'avoir un gouvernement efficace tel que vous êtes en train de le fixer. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, vous êtes de l'opposition, vous devriez être capable de présenter à la population les données chiffrées de votre problématique de la réduction du train de vie. Quand vous parlez de réduction des trains de vie, quelles sont les institutions aujourd'hui dont vous faites allusion, que vous souhaiterez voir mises en place dans le pays? Ces institutions serviraient à quoi? Et l'argent récupéré ou le personnel revu à la baisse permettrait de récupérer combien et d'en faire quoi pour faire mieux que ceux qui vous ont précédé et pour faire développer le pays?
Alors, je crains fort que votre façon de voir les choses soit un peu réductrice de la question.
Non, nous ne réduisons pas. Nous vous donnons la parole et nous posons les questions de manière claire pour que vous puissiez être plus concret.
Je vais aller beaucoup plus loin parce que vous êtes un peu limitatif. Écoutez, ce n'est pas tant les salaires des ministres.
Ça, nous avons entendu.
Les salaires des députés qui posent problème. Je parle en termes de ce qu'ils entraînent comme dépenses autour d'eux. Parce que si vous allez dans cette logique réductrice.
Est-ce que nous pouvons aller dans les exemples?
J'ai l'impression concrets. En réalité, je suis venu vous entendre écouter parler.
Allez-y, vous avez la parole.
Vous m'avez invité pour m'exprimer.
Vous avez la parole, s'il vous plaît.
Un député peut avoir. Un député doit avoir moins de 21 000 dollars. C'est la symbolique qui compte. Parce que la Constitution dit que les richesses du pays, du Congo, doivent être redistribuées de manière équitable, doivent être partagées de manière équitable. Et quand vous donnez à un député 21 000 dollars et à un policier
$80, il y a un problème. Si le plan de la symbolique et si le plan conditionnel, ça pose un problème.
Ça, c'est au niveau de la pension. Mais, nous étions en train de parler de la réduction du train de vie.
Mais ça tient partout. Les trains de vie de qui? Des institutions. Oui. Les parlements sont une institution. C'est des chambres qui composent l'Assemblée nationale et le Sénat composent le Parlement. Oui. Donc, vous voulez réduire les trains de vie de quelle institution? Y compris l'institution Parlement. Et donc, c'est naturel que je parle des députés nationaux qui sont payés $21,000. D'ailleurs, on nous dit que non, bientôt, ils seront à $33,000. Donc, quand on, c'est pas parce que c'est pas la somme qu'on va défalquer, c'est le salaire des députés qui va en soi régler la situation. Mais en réalité, et tout se tient dans une gouvernance. Si vous réduisez chez les députés, vous réduisez chez les ministres, vous réduisez chez les présidents, ça va faire une somme insignifiante.
Combien?
Ouais. Non, je ne peux pas chiffrer parce que ce n'est pas ce travail-là qu'on fait. Mais l'idée est là. L'idée de dire que $21,000, c'est trop.
Si quelqu'un d'autre vous rétorque, c'est un débat. Hein. Si quelqu'un d'autre vous rétorque que en réduisant à la présidence, en réduisant à l'Assemblée nationale, en réduisant au gouvernement, en gros, ça prendra, ça donnera peut-être la récupération de $50 millions, oui. Et que $50 millions, ça fait 50 kilomètres de route. Mmh. Ce n'est pas 50 kilomètres de route qui vont développer la RDC. Vous répondez quoi?
Mais pourquoi vous parlez seulement des routes?
Non, je donne des idées. Je donne des idées.
Mais je vous dis, parce qu'avec des si, on peut faire des Kinshasa Paris. Mmh. Avec $50 millions, on peut sortir nos soeurs et frères qui sont dans les camps de déplacés, là, à la périphérie de Goma, qui meurent de faim, et ceux qui sont à Djougou, dans les camps de déplacés, qui meurent, les enfants qui souffrent de l'anémie sévère, on peut les aider. Kinshasa a été inondé ici, il y a des personnes qui dorment à la belle étoile pendant des semaines. Ça, c'est une partie de la préoccupation du débat. C'est de réduire les salaires. S'il était pour le député à $21,000, on peut mettre ce salaire à $15,000, à $12,000. Mais je vous disais aussi que, à part les salaires, parce que les salaires ont un caractère alimentaire, des salaires, on n'obtiendra pas grand-chose, peut-être, mais c'est les dépenses autour de ces institutions. Est-ce que vous savez qu'il y a, par exemple, des frais noirs ou des faux frais, comme on les appelle, à l'Assemblée nationale? Les présidents de l'Assemblée nationale géreraient peut-être $2 millions chaque mois. Cet argent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça, où ça part. Et il faut assainir c'est la gestion des affaires de l'État. Il faut que l'on sache, aujourd'hui, si je pose la question, combien est payé le président de l'Assemblée nationale? Personne ne sera mesuré de me dire. J'ai pas de mon frère et ami député national Eliezer.
Mais si vous ne savez, si vous connaissez même pas les chiffres que vous voulez réduire, pourquoi vous voulez les réduire?
Non, c'est pas qu'on ne connaît pas.
Oui, c'est combien?
On dit qu'on ne connaît pas dans la mesure où il y a plus d'argent qui va dans des couloirs obscurs que personne ne contrôle. Eliezer Tambo, qui est un député national, nous a révélé l'année passée, sur la chaîne Canal Kin, que le vice-président de l'Assemblée nationale toucherait presque $200,000. C'est-à-dire que, à part les salaires qu'on doit réduire, c'est tous les frais qui vont dans le fonctionnement des institutions. Et si on y touche, croyez-moi, l'enveloppe sera assez conséquente et peut aussi être utilisée pour tout.
Alors,
Parce qu'ici aussi, il y a un troisième élément
Vous gardez toujours la parole, mais est-ce que le vrai problème dans ce cas, c'est les montants des salaires, c'est les montants utilisés par ces institutions, ou bien l'opacité dans l'utilisation du budget national?
L'opacité est un facteur qui aggrave la situation.
Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus dérangeant entre les salaires qu'on doit réduire et l'opacité qui pourrait gangréner les institutions, selon vous?
Tout est dérangeant. Les salaires des députés, les salaires des ministres, les salaires du président. D'ailleurs, Félix lui-même ne connaît même pas son salaire. C'est quand même assez grave, non? Dans un pays où le président dit, et avec un kilo d'acier, qu'il ne connaissait pas son salaire. Mais comment il nourrit ses enfants et sa femme? Ça pose problème. Donc, nous voulons connaître la nomenclature budgétaire qui est dédiée au salaire des députés, officiellement. Martin Fayulu est devenu un héros quand il a révélé que les députés touchaient $21,000. Mais on a tiré de partout. Il y a même des complots contre Martin Fayulu. À la fin, les mêmes députés, une année après, ont avoué qu'effectivement, ça approche ces $21,000. D'autres ont dit, ça approche $21,000. Donc, il y a une nécessité. Maintenant, il y a plusieurs facteurs. Je parlais des salaires lui-même, parce que les salaires ont un caractère alimentaire. Ils ont les droits à ces salaires-là. C'est contrepartie pour le travail rendu au peuple. Nous devons le connaître exactement. Les députés ont combien? Les ministres ont combien? Les présidents ont combien? Les DG autres ont combien? Ça, c'est les salaires. Je parle des frais de fonctionnement. Combien reçoivent-ils l'enveloppe de chaque institution.
Vous gardez toujours la parole. On aurait voulu de votre part, vous de l'opposition, que vous nous amenez, en fait, vous nous amenez pas nous, vous, que vous présentez à la population, parce qu'on parle de cette problématique depuis de nombreuses années, vous-même vous avez dit depuis 2015, oui. Aujourd'hui, que vous apportez un peu plus de clarté, du concret dans vos propos, notamment concernant les chiffres, pour qu'on sache quelle est la hauteur de l'argent qui est aujourd'hui consommé par les institutions, et qu'en les réduisant, on pourrait avoir quel montant à peu près. Ça aurait aidé beaucoup la population à vous comprendre. Ça, c'est un volet de notre débat de ce soir, et vous gardez toujours la parole. Vous pouvez à tout moment ajouter des arguments. L'autre question, c'est, puisque la Première ministre a consulté autour de la constitution du gouvernement, c'est la taille du gouvernement. Aujourd'hui, selon l'opposition, le gouvernement de la RDC devait être constitué comment ? De combien de portefeuilles ?
Alors, je vais premièrement vous dire que la question du chiffre, je vous ai dit, c'est nous la Mouka. C'est le président véritablement élu en 2018, Martin Fayoulou, qui avait révélé. Ce n'est pas vous les journalistes. Et pourtant, vous êtes des journalistes d'investigation. Vous devez faire votre travail, vous ne l'avez pas fait. C'est nous la Mouka, nous ADD Congo. C'est Fayoulou qui a dit au monde entier que les députés congolais aient payé 5 fois que les députés américains.
Vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'on peut aller directement à l'essentiel? Oui, mais allez-y à l'essentiel. L'émission a un timing et il faudrait qu'on redistribue la parole à tout le monde. La question était simple. Aujourd'hui, puisqu'on est autour du débat. On est autour du débat.
J'ai compris votre question.
Oui, allez-y. La taille du gouvernement.
Alors, donc, ce n'est pas que nous spéculons. C'est qu'eux-mêmes ne mettent pas les chiffres à la place publique. Ils les cachent. Quand le débat a eu lieu autour de 21 000 dollars, Mbosso a donné 4 chiffres.
Nous parlons de la taille du gouvernement.
Non, mais j'en viens, monsieur.
Allez-y,
c'est une forme de dictature que je vois avec vous.
Allez-y.
Voilà.
Je suis un modérateur des débats et je dois redistribuer la parole.
Mais vous,
il faut accepter parler. Ça aussi.
Pas pour vous écouter.
Allez-y.
Alors, la taille du gouvernement, je vous ai dit à l'entame de mon propos que il faut qu'on ait un gouvernement dont la taille reflète assez les défis du Congo. Effectivement, on ne va pas avoir un gouvernement avec 60 personnes, mais le Congo est aussi grand. Donc, le gouvernement doit normalement, selon nous, être en dessous de 40 ministres. Mais au-delà de ces chiffres, de ces numéros que nous donnons, nous privilégions plus, comme je l'ai dit, les efficacité, les rendements. C'est comme ça que je vous ai dit. On peut avoir un gouvernement avec 5 ministres, mais s'il y a des doutes sur les probités morales, s'il y a des doutes sur les compétences, on ne fera rien. On peut aussi avoir un gouvernement avec 40 ministres, mais qui sont des bosseurs, qui sont des gens qui ont un projet.
Votre plateforme, la Mouka, n'a pas, pendant sa campagne ou pendant sa préparation à entrer au pouvoir, n'a pas pensé à la taille que vous pouvez avoir.
Si nous avions dit que notre gouvernement ne peut pas dépasser 50 personnes, nous l'avions dit. Pourquoi? C'est parce que nous voulons réduire les dépenses. Et pour surtout donner la priorité aux investissements. Le Congo n'investit carrément rien du tout. Alors qu'on a des énormes potentialités, on a besoin d'argent pour construire des routes. On a besoin d'argent pour construire des ponts, on a besoin d'argent pour électrifier le pays, on a besoin d'argent pour sécuriser le pays. L'argent, l'essentiel d'argent, vont à la présidence, vont au Parlement, et surtout ces deux institutions qui, par essence, sont éminemment politiques. Quand vous regardez le pouvoir judiciaire, vous regardez que les juges vivent dans des conditions assez rudimentaires. Donc, pour nous, les gouvernements ne peuvent pas dépasser 40 personnes.
Vous l'avez dit. Merci. Vous restez dans ce débat avec nous. Prince Epengue, vous êtes président du parti politique Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo en sigle, et porte-parole de la plateforme d'opposition Lamouka. Ntumba Tshabola Bintou, député national de la législature de 2018-2023 et cadre de l'UDPS, parti de l'Union Sacrée de la Nation, qui nous a rejoint dans ces débats. Est-ce que vous connaissez ce qui s'est dit ces derniers jours entre la Première ministre et votre camp politique de l'Union Sacrée autour du gouvernement, notamment concernant la taille que pourrait avoir ce futur gouvernement, et surtout si la décision sur la réduction du train de vie reste toujours une option ou est une décision déjà levée et prise.
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer tous les millions d'auditeurs de la Radio Capi, ainsi que les co-débatteurs, et vous remercier pour l'invitation. Et je voudrais préciser que je n'interviens pas, je ne suis pas porte-parole de notre parti politique IDPS. Il y a la bouche autorisée qui est notre secrétaire général, Augustin Kabuya, honorable Augustin Kabuya, c'est lui qui pourra vous donner à répondre à l'ensemble de vos questions. Maintenant, pour donner mon point de vue par rapport à l'ensemble, à tout ce qu'il y a en tant que politique, il faut savoir que la République a réellement besoin de beaucoup de moyens, et pour avoir beaucoup de moyens, presque d'abord les chefs de l'État lui-même, la première ministre, ont émis les souhaits, et d'autres Congolais, y compris moi-même, ont émis les souhaits à ce que le gouvernement, que la taille du gouvernement soit réduite. Il y a effectivement des ministères qu'il faut fusionner, à mon humble avis. Si cela ne dépend que de moi, par exemple, le gouvernement peut avoir 26 ministres, titulaire avec plus 15 vice-ministres, pour que chaque province puisse se retrouver avec un ministère, et les 15 vice-ministères, on va regarder parmi d'autres ministères là où il y a nécessité à ce qu'il y ait un vice-ministre, qu'on puisse placer ça. Donc, mais il faut aussi tenir compte de contexte de notre pays, faire un gouvernement qui doit unir tous les enfants du Congo, mais qui ne doit pas être de très grande taille. Puisqu'il y a des ministères à fusionner, par exemple, vous pouvez prendre le ministère de pêche, élevage, agriculture, fusionner le ministère de, par exemple, de FST, formation professionnelle, et peut-être avec le CHU, former un seul ministère, prendre l'économie, finance, un seul ministère. Il y a d'autres ministères qu'il faut fusionner. Donc, la République a besoin de beaucoup de moyens, et je pense que c'est mieux de réduire la taille du gouvernement comme tout le monde le souhaite.
Alors, nous allons revenir tout à l'heure dans ce qui doit être concrètement fait. Hein. Merci déjà de nous avoir donné quelques exemples qui, selon vous, pourraient permettre justement de compresser certaines institutions. Mais avant, dans le concret, est-ce que, à ce stade, du côté de l'Union sacrée à laquelle vous appartenez, la notion de réduction du train de vie des institutions, est-ce que c'est un mythe ou bien c'est cette fois-ci une réalité que l'Union sacrée va appliquer?
Bon, je pense que je vous ai dit que je ne suis pas le porte-parole de l'Union sacrée. Vous m'avez invité en tant qu'acteur politique, je vous donne mon point de vue.
Oui, oui, mais justement, dans votre famille politique, vous en parlez, non? Si vous n'en parlez pas et qu'il n'y a aucune décision de lever, c'est que nous sommes encore dans les réflexions.
Non, je ne suis pas le porte-parole attitré de l'Union sacrée pour vous dire ce qui a été déjà convenu, mais je vous ai donné mon point de vue en tant qu'acteur politique. Donc, mais le plus important, c'est que le peuple doit retenir et que dans les jours la population sera fixée dans les jours à venir.
Alors,
le principe de la réduction des trains de vie de l'État, c'est un principe qui est acté par tous les Congolais.
Voilà, c'était justement cette orientation que nous souhaitions avoir à éclairer, mais justement de manière claire et de manière concrète, parce que un peu comme nous avons fait remarquer après ces pingues tout à l'heure, c'est une terminologie qui est utilisée depuis de nombreuses années maintenant. Actuellement, et puisque c'est acté que ce sera quelque chose de fait, comment peut-on aujourd'hui, dans la RDC d'aujourd'hui, réduire le train de vie des institutions de manière concrète? Quelle est la situation des dépenses des institutions aujourd'hui, et on réduirait quoi pour obtenir combien et en faire quoi?
Bon, j'ai suivi mon frère Etengue qui était en train de vous donner des chiffres, des 21 000, des ceci. Bon, mais quand il se pose la question de savoir quel est par combien on paye les députés, mais tout est politicien, tout est intellectuel, n'a qu'à voir le budget de l'État. Les budgets existent, les budgets publiés dans les journaux officiels, vous pouvez il peut bien consulter, voir la rubrique réservée à la rémunération des institutions. Il y a aussi l'institution Assemblée nationale, là où il peut bien voir les montants qui sont réservés aux députés. D'abord, ça, il y a peu de chimères. pas, on avait demandé, on avait dit à la population, on avait fait croire à la population qu'un député toucherait 21 000. Mais, j'ai eu la chance de participer à la commission qui avait audité les collègues qui avaient dit ça, mais personne n'a pu prouver qu'un député touchait 21 000 dollars. Alors, vous pouvez aussi poser la question aujourd'hui aux nouveaux venus, les députés qui sont élus aujourd'hui, s'ils peuvent vous dire si depuis 3 mois qu'ils sont là, depuis le mois de janvier, ils ont déjà touché 21 000 dollars.
Bintou Tchabola, Toumba Tchabola Bintou, je vais toujours faire le même effort, c'est-à-dire éviter qu'on en ramène dans ce débat de ce soir, les débats qui ont déjà eu lieu sur certaines questions. C'est pas le débat de ce soir, c'est pas combien coûtent les députés, mais comment arrive la RDC peut-elle aujourd'hui arriver à réduire justement de manière concrète le train de vie des institutions. Quelles sont d'abord ces institutions qu'on pourrait toucher? Si on fait la comptabilité des institutions, on les connaît, mais justement on parle de réduire les institutions. C'est lesquelles? On ferait comment?
Par exemple,
on diminuerait combien?
En ce qui concerne par exemple les gouvernements, première institution qu'il faut toucher, il faut que le nombre de membres du gouvernement, que la taille soit réduite. Ça fait déjà un premier élément. Et en plus, il faut déterminer aussi le nombre de membres qui doivent composer le cabinet ministériel. Et ces membres-là doivent répondre aussi à certains critères. On ne doit pas laisser la latitude à un ministre de prendre autant de gens qu'il veut. Alors, ça fera partie de la réduction des trains de vie. En plus, on va voir sur d'autres institutions qui sont, si elles sont encore nécessaires, par exemple, il y a eu autant d'institutions qui ont été créées pour accompagner la transition depuis San City. Est-ce qu'il y a d'autres, qu'on avait créées après le dialogue de Saint-Sylvestre? Est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres qui sont encore opportunes pour continuer à avaler l'argent de la République? Si on trouve que c'est nécessaire pour l'intérêt du pays, on les maintient. Si on trouve qu'il n'y a pas l'intérêt à ce qu'on puisse les maintenir, on met fin à ça et puis on avance. La République doit gagner.
Toumba Tchabola Bintou, est-ce que cette question est vraiment suffisamment analysé et réfléchi, même du côté de la majorité, parce que tout le monde sait qu'à l'époque du Zaïre, le pays tournait autour de maximum une trentaine de ministères, mais des années après, quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte que peu de ministères, oui, peu de personnel aussi pour les autres institutions, mais que le pays avait déjà beaucoup de dettes et que le fonctionnaire lambda ne touchait guère plus de 50 dollars. Est-ce que la question, c'est toujours cette question de réduction de la taille et de la diminution de la consommation des institutions, ou bien la réponse se cache ailleurs, peut-être dans le flou, dans l'opacité, ou même dans d'autres considérations pour que les institutions consomment moins et que la population consomme suffisamment?
Non, chaque politicien, quand il vient en politique, doit savoir qu'il ne vient pas en politique pour s'enrichir. Quand on vient en politique, c'est pour servir. Et pour servir, il faut accepter le sacrifice. Et à tous les politiciens congolais, nous leur demandons d'accepter le sacrifice, puisque la libéralisation des partis politiques a fait qu'aujourd'hui, la République compte plus de 800 partis politiques, à peu près 910 quand nous sommes allés aux élections de 2023. Donc, vous voyez qu'il y a autant de partis politiques. Si vous regardez au niveau de l'Assemblée nationale, bien sûr, nous avons la grande famille aujourd'hui, l'Union sacrée, qui a la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais il faudrait que les politiciens comprennent qu'on ne peut pas faire un gouvernement de 400 membres. Donc ils doivent accepter pour que les gens acceptent ce qui sera retenu, ce qui seront retenus, qu'ils travaillent pour la République, ce qui ne seront pas retenus, qu'ils acceptent sportivement de continuer à servir la République dans un poste ou un autre, pas seulement au sein du gouvernement. C'est seulement l'égoïsme, puisque vous voyez, il y en a qui parlent aujourd'hui à gauche, à droite, puisque chacun veut se retrouver quelque part. Donc, quand vous allez en politique, ce n'est pas vous enrichir. Si vous trouvez un politicien millionnaire, ça veut dire que l'argent-là n'est pas venu de la politique. Même au sein de l'Assemblée nationale, je ne connais aucun député qui est devenu millionnaire puisqu'on l'a payé pendant 5 ans. Et même dans les 5 ans à venir, il n'y aura aucun président, aucun député qui sera millionnaire. Même au sein du gouvernement, je pense que c'est la même chose. Donc, on vient en politique pour servir.
Vous l'avez dit.
Il faut accepter de ce qui va se décider. Si vous, votre nom ne se retrouve pas au sein du gouvernement, il ne faut pas que la République, vous puissiez brûler la République, puisque vous n'êtes pas là. Et puis, il faut aussi compter à quelqu'un qui a, si vous n'êtes pas retenu, acceptez sportivement que ce n'est pas votre tour.
Vous l'avez dit, Toumba Chabola Bintou, vous restez dans ce débat aussi avec nous. Gaucher Kizito, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université catholique de Graben et Boutembo. Quelle est votre lecture, votre avis sur ces deux problématiques de ce soir, la réduction de la taille du gouvernement et la réduction du train de vie des institutions? Comment arriver à ces souhaits de manière concrète en République démocratique du Congo pour le gouvernement qui pourrait sortir dans les jours à venir?
Merci pour la parole, M. Guy Maté. J'ai suivi avec intérêt les interventions des deux autres. Et en revenant carrément sur le premier défi, parce que ça demeure encore un défi, mais heureusement quand même qu'il y a des engagements de la part de la première ministre Judith. Et le premier défi qu'elle attend relevé, c'est d'abord la réduction de la taille du gouvernement. Et là, je m'en vais carrément à l'article 90 de la Constitution, troisième alinéa par rapport à la composition du gouvernement, et les constituants fixent un élément qui est important, mais malheureusement cet élément qui est clairement défini dans la Constitution ne donne pas les référents sur lesquels on peut se fonder pour réellement qualifier ce que les constituants parlent de représentativité nationale. À mon humble avis, comme l'a dit d'ailleurs l'intervenant Toumba, je serais d'avis, et peut-être que ça permettrait à ce que le gouvernement soit efficace, le gouvernement soit aussi efficient, c'est que le nombre de ministres tiendrait compte du nombre de provinces que nous avons dans notre pays, tel qu'est défini dans notre constitution. La constitution dit clairement que la République démocratique du Congo est subdivisée en ville de Kinshasa, plus 25 provinces. Donc, à mon humble avis, je pense que 26 ministres, et à ces 26 ministres, on peut ajouter une dizaine ou peut-être au plus 15 vice-ministres pour qu'on arrive à une taille du gouvernement qui ne dépasse pas réellement 45 ministres. Ça permettrait à ce que, bien évidemment, il y ait d'abord la représentativité nationale. Moi, je me réfère d'abord aux provinces, mais aussi ça tiendrait compte, notamment au niveau de vice-ministère, ça tient très compte maintenant d'autres facteurs. Par exemple, le poids de chaque parti politique, de chaque regroupement politique, on sait, de l'Assemblée nationale. Deuxième élément, en ce qui concerne la réduction du trait de vie des institutions. Globalement, on se rend compte que le budget de la République démocratique du Congo, et c'est exactement ce que vous avez noté d'ailleurs dans les documents, est consommé à plus de 60% par les institutions au niveau national. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des frais de fonctionnement. Le frais de fonctionnement qui veut dire quoi? C'est le traitement, c'est-à-dire les salaires, mais aussi l'organisation et le fonctionnement du bureau, c'est-à-dire l'achat des fournitures, les déplacements des autorités politico-administratives. Et ça consomme plus de 60%. Et du coup, on se rend compte que ce qui est réinvesti dans les secteurs socio-économiques, la construction des écoles, la construction de routes, l'aménagement d'autres structures socio-économiques, n'est pris en compte par les gouvernements qu'à hauteur de 40%, peut-être moins de 40%. Et du coup, on peut tout de suite penser à ce que, personnellement, je qualifie de gouvernance de survie, ou des gouvernances de subsistance, le gros de ce que l'État produit, il est consommé par les institutions nationales. Et quand on voit la proportion ou la part qui rentre dans l'investissement, c'est-à-dire la capacité redistributive de l'État, c'est une capacité réellement qui est réduite. Et de ce point de vue, et en tenant compte de cette difficulté, la réduction du trait de vie des institutions veut tout simplement dire, un, si on arrive à réduire le gouvernement, ça aura un impact du point de vue frais de fonctionnement de ces institutions, du point de vue paiement des salaires, des agents, des ministres, mais aussi de ceux qui sont dans les différents cabinets des différents ministres, mais aussi cette réduction du trait de vie va, on l'espère bien, et si cela est réellement acté, et si cela sera pris en considération dans le gouvernement qui sortira d'un moment à l'autre, on l'espère, parce que le peuple ne fait qu'attendre depuis décembre, depuis janvier jusqu'à 7 ans, et ça permettrait le gros qu'on peut récupérer de cette réduction du trait de vie, ça permettrait de souffler encore davantage dans les secteurs socio-économiques de la République démocratique du Congo. Et du coup, ça permettrait à ce que les conditions socio-économiques des citoyens soient quand même améliorées que peut-être la situation que nous traversons actuellement.
Professeur, vous gardez la parole, mais notre émission, c'est aussi une émission interactive avec la participation de tous ceux qui nous consomment, de tous ceux qui nous écoutent, aussi bien en FM que dans toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Vous gardez la parole, professeur, mais pendant que vous avez encore la main sur la parole, nous allons écouter et vous allez sans doute réagir à cette réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis la Tchopo. Ignace Ofumba.
Moi, c'est Ignace Ofumba d'Ubundu dans la province de la Tchopo. Ce qui préoccupe le peuple congolais, c'est le social et la sécurité. Nous ne voulons pas seulement que le gouvernement soit un modèle pour les politiques, mais que ça soit serviable pour tous. Chacun, dans son coin, doit se retrouver, même le peuple démuni.
Professeur, qu'est-ce que vous pensez du commentaire de cet auditeur? Mais aussi, j'ajoute, pendant que vous allez répondre à cet auditeur, est-ce que la question, c'est seulement la réduction de la taille des et la réduction du train de vie des institutions, ou bien il faut ajouter d'autres ingrédients? Je pense, en posant cette question, au fait qu'on peut arriver à réduire la taille et le train de vie des institutions, mais l'argent récupéré risque de prendre d'autres chemins aussi, et la population risque de ne pas en profiter comme on souhaiterait le faire.
Vous avez raison, monsieur les journalistes. La réduction du trait de vie, c'est un élément. C'est un élément du puzzle. Et le deuxième élément, je pense bien, c'est de pouvoir maintenant retracer le surplus qui a été récupéré en réduisant le trait de vie des institutions, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, la traçabilité de ce fonds, mais aussi les actions concrètes des luttes contre la corruption. On sait des institutions qui semblent aussi devenir monnaie courante dans les institutions de notre pays. Donc, si on combine plusieurs facteurs, premier facteur ou premier segment sur lequel on va appuyer, la réduction du trait des institutions, c'est-à-dire la taille, c'est déjà un élément important. Et Monsieur Toumba, il a rappelé un certain nombre d'éléments, la réduction du trait des institutions, par exemple, en mettant au point les éléments sur lesquels on va réduire ou on va fusionner certains ministères, parce que la réalité est que on se rend compte qu'il y a beaucoup de ministères qui ont été créés dans les gouvernements passés, dans les gouvernements antérieurs, alors que ce sont des segments qu'on pourrait fusionner pour constituer un ministère, et un ministère qui devra être plus ou moins efficace pour prendre en compte plusieurs éléments.
Maintenant, au niveau des provinces, allez-y.
Il y a aussi les collèges exécutifs provinciaux avec 10 ministères. Donc, si on arrive à réduire ou à fusionner certains ministères, on sait qu'au niveau des différentes provinces, il y a quand même des ministères qui peuvent peut-être arriver à prendre en charge d'autres questions, bien évidemment en tenant compte de matières telles que précisées dans la Constitution.
Maintenant, pour atteindre des objectifs tels que souhaités par l'auditeur qui dit il faut que le peuple en profite, même le peuple démuni. Comment on peut maintenant transposer tous ces acquis-là dans l'assiette du plus démuni.
Oui, alors, le surplus qui peut être récupéré de cette réduction du train de vie des institutions nationales permettra. Il faudrait réellement qu'il y ait des indications claires données par Madame Judith, la Première ministre, dans les sociales. Dans les sociales, ça veut dire quoi? La construction des structures de santé, que ce soit des postes de santé, que ce soit des centres de santé, que ce soit des hôpitaux, afin de permettre et de mettre en point des services sociaux de base, des qualités, mais des proximités. Deuxième élément, ce surplus qui résulterait de la réduction du trait de vie des institutions permettrait de construire des écoles. Il y a moins d'écoles que nous avons, par exemple, dans notre pays. Bien sûr, les institutions que je viens de mentionner, ce sont des institutions qui n'ont pas réellement de rentabilité économique, mais du point de vue social, ce sont des éléments qui vont permettre en ce que le citoyen puisse vivre quand même dans des conditions acceptables.
Merci.
Mais ce surplus également peut aussi servir à investir dans les secteurs économiques, en créant par exemple des industries, qui vont permettre en ce que on puisse empocher plus de jeunes et peut-être réduire davantage le chômage. Ce chômage qui amène des individus, qui amène beaucoup de Congolais à rester dans l'oisiveté, et cette oisiveté qui les pousse à rentrer peut-être dans des situations d'insécurité. Le vol, je ne sais pas quoi, le braquage, ainsi de suite. Donc, la réduction du trait de vie, si réellement elle est bien réfléchie, ça pourrait avoir des effets émergents dans les secteurs sociaux, dans les secteurs économiques, sécurité dans notre pays.
Merci, professeur Gaucher Kizito. Prince Epengue, nous allons vous redonner la parole pour notamment réagir à l'ensemble des questions sur lesquelles vous voulez réagir, mais surtout aux commentaires de cet auditeur qui nous appelle depuis Mbujimayi.
Depuis la ville de Mbujimayi en tant qu'abondoy, toutes les idées données par les leaders congolais sont bonnes. Mais je trouve intéressant celle de Bahati Lukwebu, car la population congolaise ne doit pas être un tremplin pour les politiciens congolais. On a élu, et maintenant les animateurs des institutions qui bénéficient. Beaucoup plus que ceux-là qui ont fait que vous soyez leaders. C'est une honte de dire à haute voix que le peuple d'abord.
Prince Epengue, vous avez la parole.
Je partage son point de vue, même si Bahati, qu'il vient de citer, n'est pas un exemple à la matière. Nous savons comment, alors que le peuple meurt de faim, les deux présidents des deux chambres, Assemblée nationale et le Sénat, en complicité avec M. Félix Tshisekedi, ont accepté des jupes palissades de 47 000 dollars par député. On a demandé d'où venait l'argent. Bahati n'a jamais dit l'origine de l'argent. Et il y a eu même beaucoup de scandales là-dessus. Maintenant, il faut qu'on réduise les trains de vie des institutions. Je parle du gouvernement. Avec ces deux facettes, je parle du Parlement. On donne le cas très souvent de la Rissue, avec 17 125 191 km², et la population russe s'est estimée aujourd'hui à 146 444 habitants, mais la Russie compterait moins de 22 ministres, avec plus de 17 millions de km². Quand nous disons les gouvernements à la taille du Congo, au sein de mon parti du Congo, au sein de la Mouka, nous disons un gouvernement à la taille des défis du Congo. C'est comme ça que nous, la Mouka, nous condamnons le fait que 4 mois après ce simulacre d'élection, les membres de l'Union sacrée s'entretuent entre eux. Chacun veut être à l'Assemblée nationale, chacun veut être au Sénat, chacun veut être au gouvernement, et ils ont bloqué toute la République. Et ça prouve ce que nous disions, que ces gens-là se sont réunis au sein de l'Union sacrée pour les intérêts égoïstes. Je suis bien d'accord que nous devons réduire les trains de vie des institutions. Je l'ai dit et je le répète, nous avions dit qu'au sein de la Mouka, avec 40 ministres, ça peut faire l'affaire. Évidemment qu'il y a des ministères qu'il faut fusionner. Ministère de l'enseignement primaire et le ministère qui s'occupe des universités et autres, il faut fusionner ces côtés-là parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on sépare ces domaines de l'enseignement et de la recherche. Il est important qu'on fusionne. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi Madame Judith est perdante dans ce combat? Parce que la philosophie qui préside au partage du gouvernement, c'est que on donne les postes aux gens selon les quotas. On donne les postes aux gens selon la loyauté au chef, selon le militantisme au sein du parti. Voyez-vous, ce n'est pas sur base des compétences. C'est comme ça que j'ai dit que le nombre compte. Oui, il faut réduire le nombre de ministres. Mais il faut réduire les trains de vie. Mais aussi, il faut faire en sorte que l'argent, plutôt qu'il y ait bonne gouvernance. Le Zolobambi vient de le dire ici. Vous l'avez d'ailleurs épinglé. Qu'on peut réduire les trains de vie des institutions. Mais l'argent qu'on va tirer de cette réduction ira où? Si la mauvaise gouvernance continue. Le Zolobambi vient de confirmer que les 15 milliards de dollars qui sont volés chaque année, eh bien, l'hémorragie ne s'est pas arrêtée. Même sous Félix Tshisekedi, même en 2024, en 2023, les 15 milliards ont été volés. Vous avez vu un ministre des Finances qui nous construit un forage à 277 1000 dollars. Un forage qui coûtait 11 000 dollars, lui, il l'a construit dans un pays.
On va pas ouvrir le débat sur ce sujet, mais il semble qu'il y ait eu des clarifications par rapport à ça.
Quand Epeng dit des vérités, tout de suite, vous l'arrêtez. Pourquoi?
Non. Nous sommes un média qui.
Un forage
ne
qui coûte à Kimanseke. Si je viens un forage à Kimanseke, un forage moderne à 11 000 dollars, le ministre des Finances a payé 297 000 dollars en procédure d'urgence, en faisant un dodan, en dépassant la chaîne de dépenses et surtout sans appel d'offres. Quand vous avez des ministres comme ça, même si vous en avez 7 au gouvernement, vous allez arriver où?
Merci.
Ça va être un fiasco.
Merci.
Donc voilà pourquoi nous disons qu'on réduit la taille du gouvernement.
Vous l'avez dit.
On réduit les salaires des membres du gouvernement. Vous avez vu les cortèges du ministre de l'Intérieur? 25 véhicules qui coûtent chacun 60 000 dollars. C'est pas normal. Ça aussi, il faut réduire. Les cortèges, Félix, tu sais ce que dit. Quand ça passe, il faut attendre 40 minutes pour que les cortèges terminent. Parce qu'il y a trop de véhicules de luxe. Ça aussi, il faut réduire. Mais aussi, insister sur la bonne gouvernance. Il faut réactiver la Cour des comptes. Mais que l'IGF aussi puisse devenir beaucoup plus libre pour suivre tous ces détournements. Parce qu'on peut bien réduire, mais l'argent ira toujours dans un secteur où on ne maîtrisera pas. Et le peuple qui est en train de plaider, pour laquelle la population qu'il faut réduire les trains de vie pour investir dans les domaines sociaux, pour investir du côté sanitaire, pour investir du côté éducation, on réduira bien les trains de vie, mais l'argent n'arrivera pas en destination parce que tout ce qui est en développement, on peut réduire, mais si les détournements continuent, si les GFE et la Cour des comptes ne font pas le travail, eh bien, on finira à ce que Kofi Olomide avait chanté, nous tous accorons point.
Merci, Prince Epengue. Je voulais vous reprendre la parole pour la donner à Bintou Tshabola, ensuite de revenir avec vous pour vous conclure. Mais je considère que vous avez déjà pris le temps de faire votre conclusion. Bintou Tshabola Tumba, nous vous donnons aussi la possibilité de réagir aux commentaires de cet auditeur et probablement faire aussi votre conclusion. Nous écoutons ce dernier auditeur qui nous appelle de Kisangani.
Parce que c'est depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. À mon avis, l'essentiel, c'est le social de la population. Or, tout ce que ces ténors de l'Union Sacrée Cité Sio ont déclaré n'est que mensonge. Rendez-vous compte que si la sortie du gouvernement tarde, c'est à cause de leur positionnement politique. Il est impérieux que l'on réduise la taille du gouvernement pour tenir compte du social des Congolais, car le peuple ne sait pas les retombées de son pays. Tout revient aux politiciens.
Ntumba Tshabola Bintou.
Merci beaucoup. Bon, nous tenons d'abord à remercier notre compatriote de Kisangani. Il faut dire que en ce qui concerne le social du peuple congolais, je sais que le social ne se résume pas seulement à tout ce qu'on a dit, mais il y a aussi ce qui est déjà en train d'être fait. Vous avez la gratuité de l'enseignement, vous avez la gratuité de la maternité, vous avez autre chose, mais maintenant, ce que nous devons faire avec ce qui sera obtenu après la réduction des trains de vie des institutions de l'État, Moi, je propose que cet argent soit orienté seulement dans un seul secteur, ça veut dire l'agriculture. Dans l'agriculture, cela va permettre nous avons au moins augmenté le nombre de services nationaux, au moins dans chaque province, qui est une direction de services nationaux, qui doit encadrer les jeunes. Et cela doit être dupliqué dans les 145 territoires. Et vous verrez que nous aurons non seulement il y a une grande main d'œuvre de la jeunesse qui n'est pas utilisée, puisque il y a pas d'encadrement. Mais avec ce qu'on peut avoir là, le domaine agricole peut prendre soit 60% des jeunes et nous aurons une grande production sur le plan agricole. Et la République ne pourra plus dépendre de l'extérieur pour acheter ce qu'elle doit manger. Donc, avec cet argent-là, ça va permettre, ça va aider. Mais ça ne finira pas. Mais en plus de ça, il faut savoir que l'une était la guerre qui nous est imposée à l'est du pays, la République, sous la direction de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pendant les 5 premières années et les 5 ans à venir, la République pouvait déjà avoir, non seulement dans notre propre trésor public, pas moins de 20 milliards de dollars de disponibles. Mais c'est tellement plus que beaucoup d'argent va pour la souveraineté, pour la sécurité de notre pays. Alors, c'est ainsi que beaucoup de moyens sont dépensés. Mais si la République arrive à obtenir la paix totale, j'espère qu'il y aura beaucoup de moyens et beaucoup de projets qui seront très bien réalisés. Mais le plus important, c'est tout ce que nous allons obtenir dans la réduction des trains de vie de l'État soit orienté uniquement dans les domaines agricoles. Parce qu'il y a des provinces, par exemple, à l'est du pays, là, on produit beaucoup. Mais il y a des difficultés, par exemple, à ce que sont les routes. Mais la production est là. Et les agriculteurs n'ont pas de soutien. Quand vous allez à l'ouest du pays, il y a un problème de routes aussi. Il y a un problème d'appui sur les plans agricoles. Nous n'avons pas de banques agricoles. Si on peut avoir 145 banques agricoles dans nos 145 territoires, cela va permettre à ce que chaque territoire puisse produire et puis orienter l'agriculture.
Merci.
Pas seulement l'agriculture pour l'agriculture. Par exemple, dans l'espace Kassai, qu'est-ce qu'on doit produire? Dans l'espace Kivu, qu'est-ce qu'on doit produire? Dans tel espace, qu'est-ce qu'on doit produire? Et la jeunesse doit être le pied de lance de cette production-là. Vous verrez que l'Ekuluna s'arrêtera, et tout ce qu'il y a comme groupe armé, ça va s'arrêter, et tout ce qu'il y a comme problème s'arrêtera, puisque aucun Congolais qui aura un travail ne peut pas se permettre d'aller dans un groupe armé. Fait que le Congolais qui aura un travail ne pourra pas se permettre d'aller faire des discussions de musique, où il a dit, JB a dit, tel a dit, ça ne lui fera rien, il ne s'occupera pas autre chose, il va s'occuper réellement de son travail.
Ntumba Chabola, Bintou, merci. En nous ferons le moment venu l'évaluation lorsque le train de vie et la taille du gouvernement aura été d'application. Gaucher Kizito, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université catholique de Graben à Butembo, province du Nord Kivu. C'est avec vous que nous allons brièvement conclure cette émission. Que pouvons-nous retenir de ces deux problématiques de réduction de la taille et du train de vie des populations? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut récupérer vraiment en termes chiffrés? C'est une question qui permettrait de fixer clairement ce qu'il y a à gagner en faisant ces opérations-là.
Je voudrais bien dire que il faut penser une politique structurelle et non conjoncturelle, même en termes déjà de taille des gouvernements. Pourquoi je l'ai dit? Dans certaines constitutions contemporaines, le constituant fixe carrément le nombre de ministères à avoir. Et si cela était déjà dit dans notre constitution, ça nous éviterait encore de prendre énormément de temps de dire combien de ministères nous devons avoir, quelle taille nous devons avoir du ministère. Ça, c'est de un. Parce que lorsque ça a une dimension conjoncturelle, c'est-à-dire la taille du gouvernement dépend de considérations politiques de ces temps-là. Ça, c'est un premier élément que je relève. Donc, au lieu de penser à une politique conjoncturelle, il faut penser à une politique structurelle pour pas instituer ça carrément dans la Constitution. Bien sûr, la procédure, elle est longue. Mais peut-être, il faudrait que les Congolais réfléchissent dans ce sens-là.
Merci.
Deuxièmement, réduisant les traits de vie des institutions, le surplus ou l'argent récolté, on va l'amener dans quel secteur? Il y a des secteurs qui sont très stratégiques, des secteurs qui sont réellement productifs. Je vois par exemple le secteur de sécurité. Je vois les secteurs agricoles, je vois aussi les secteurs. Ce sont des secteurs qui sont réellement des segments importants pour permettre à ce que le citoyen puisse quand même avoir un peu plus de considération en conditions actuelles dans lesquelles ils vivent dans des conditions réellement pénibles. C'est par exemple dans les secteurs aussi des infrastructures, notamment les routes. Il y a un intervenant qui a rappelé que les routes, la majorité dans notre pays, ce sont des routes qui sont réellement délabrées. Voilà à quelques mots ce que je voulais dire en bref.
Merci à vous, professeur Gaucher Kizito, tout comme Prince Epengue, porte-parole de la plateforme de l'opposition Lamuka, tout comme Toumba Tchabola Bintou, ancien député et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée, pour votre présence à l'émission de ce soir. Kélin Kouté, Guimaté, Polydor Basunga, Jonathan Fouanani, Hervé Voka et Clément Chimanga m'ont aidé à produire l'émission de ce soir. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.